Voilà, mais ce qui est important, c'est de... Quand on est chrétien, il y a une grosse différence. Parce que quand on n'est pas chrétien, bah, c'est l'un ou l'autre. Bon, souvent, ça craque à cause de ça. Mais quand on est chrétien, on a un énorme avantage. On a, j'ose dire, une solution ternaire, une troisième solution. C'est de chercher ensemble ce qui est bon et juste devant Dieu, surtout quand il s'agit du bien-être de l'Église, qui est tellement chère au cœur de Dieu. Alors vous allez me dire, oh l'Église, oh là 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 là, oui, oui, je suis sûre que Dieu de temps en temps, il pense, oh là 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 là, mais il l'aime quand même, il l'aime l'Église, elle est chère à ses yeux. Je me rappelle d'une période quand j'étais jeune, venant d'une très grande église où on avait très peu de contact finalement avec beaucoup de gens, puisque elle était très grande, je pensais, oh, l'Église, on peut s'en passer. Mais le Seigneur m'a bien parlé là-dessus. Je disais ça quand j'avais 20 ans. Et puis, ça n'empêche que tous les dimanches matins, j'étais dans un culte. Parce que, petit à petit, j'ai bien réalisé que l'Église, ça fait partie du plan de Dieu. Alors, il y a des moments dans la vie où on pense que c'est bien dommage. Parce qu'on est humain. Mais il y a des moments où on est bien content que l'Église soit là. Dieu aime son Église, malgré tous les défauts. Alors, ceci étant, je me permets de rappeler qu'il y a eu dans les messages d'André des points importants, et je pense que vous l'avez tous reconnu, qui peuvent nous aider à voir plus clair, surtout dans les temps qu'on vit en ce moment, qui sont des temps troublés, et ça peut nous aider à prendre des décisions, alors on va dire sur des décisions de sagesse, des décisions éclairées. Et particulièrement, on avait évoqué à la fin de l'université d'été la notion d'appel. L'appel de Dieu sur un couple, l'appel de Dieu pour le travail. Seigneur, quelle profession je dois exercer? Vers quoi est-ce que toi, tu penses me diriger? Parce que tu me connais. Ça, c'est un point très important. Vous vous souvenez, il mettait ça en haut de son triangle, là. Je remue le couteau dans la plaie, là. Et oui, l'appel. Franchement, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé. Parce que c'est vrai pour nos jeunes. Voyez pas, moi je compatis avec notre jeune génération. Elle est obligée de faire tous ses choix très tôt. Alors que les goûts ne sont pas encore forcément établis. Hein? Et alors il faut choisir une profession, il faut choisir une filière. Ah, c'est bien joli, mais quand on ne sait pas. Et moi ça me gêne toujours quand j'entends des jeunes dire « Mais je ne sais pas, je ne sais pas ce que je veux. Oh, et qu'est-ce qu'on va faire ?» Eh bien nous chrétiens, on a une chance inouïe, on va prier. Seigneur, montre-moi la voie que je dois suivre. Et Dieu le fait. Moi, je me souviens avoir eu ces problèmes d'orientation énormes entre 17, puisque j'ai passé mon bac à 17 ans, 17, oui, l'année de mes 17 ans, qu'est-ce que je fais l'année prochaine? Et je me souviens, je travaillais dans un orphelinat en Italie, et je montais, ils avaient une super terrasse au-dessus de la ville de Florence. Et ils avaient une super petite terrasse tout en haut de la ville, de ces vieilles villes-là de la Renaissance. Là. Et j'allais prier le matin. Alors là, je ne sais pas comment j'ai fait, moi qui suis plutôt du soir, mais je devais être vraiment stressée hein, pour aller prier là-haut le matin. Et je suppliais Dieu de me montrer qu'est-ce que je devais faire, où j'allais m'inscrire. À l'époque, on n'avait pas tout ce qu'il y a maintenant pour s'inscrire. Et ça a été une lutte pendant un mois, jusqu'à ce que je sente la paix pour mon orientation. Et je dois dire que Dieu a rudement bien fait. Il a bien choisi. Ce n'était pas évident. Donc, l'appel de Dieu, la prière, qu'est-ce que je vais faire comme profession? Qu'est-ce que je vais faire comme étude? Et ça, c'est un point très important. Alors, je ne vais pas tout citer, parce que je ne vais pas refaire les messages d'André, sinon je sens que vous allez me sortir. Mais je citerai un point très important que moi j'ai retenu et qui m'a beaucoup parlé. C'est le fait de refuser de voir tout en noir et blanc. Alors, il l'a présenté autrement, d'accord, mais moi, je vous le présente comme ça. C'est tellement plus simple. Vous savez, comme dans les westerns, il y a les bons et les méchants, et on est tranquille. Vous savez très bien que dans la vie, ça ne marche pas comme ça. C'est tellement plus simple, mais c'est tellement plus faux. Et d'ailleurs, en réfléchissant à cette question avant de vous parler ce matin, j'ai pensé aux pharisiens. Les pharisiens ont toujours cherché à piéger Jésus avec ce côté binaire, noir-blanc, bon-mauvais. Pensez aux impôts. Ah, est-ce que tu payes? Est-ce qu'il faut payer les impôts à César? S'il dit oui, c'est un collabo. S'il dit non, c'est un rebelle à l'autorité du pays. Yeah. Mais Jésus, lui, trouvait toujours une troisième solution. Et pourquoi est-ce qu'il trouvait cette troisième solution? Parce qu'il avait une vision du monde qui était différente des hommes. Et il va leur dire, donnez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Sa vision du monde lui permettait de voir le royaume de Dieu avant le royaume des hommes. La condamnation de la femme adultère, vous vous souvenez, elle était prise sur le fait, et ah là là, on va voir si l'amour qu'il prêche, ça va marcher, hein? Est-ce qu'il va prendre la première pierre? Il aurait pu, puisqu'il était sans péché. Ou est-ce qu'il va la gracier? Alors, s'il lui retombe dessus, l'amour qu'il prêche, c'est du bidon. S'il la gracie, il va à l'encontre de la loi de Moïse. Et clac, clac. Jésus va trouver une troisième solution. Que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ha ha! Fallait y penser à celle-là, hein? Est-ce que moi, je trouve ce texte hyper rigolo, parce que c'est les plus vieux qui sont partis en premier. Réjouissez-vous, la jeune génération. Vous n'avez pas eu le temps d'en faire autant de bêtises que les plus âgés. Guérir le jour du sabbat. Guérir le jour du sabbat. S'il ne le fait pas, vous voyez sa compassion pour les gens. Hein. S'il le fait, il a désobéi à la loi. Il a fait un travail le jour du sabbat. Ah, et voilà pourquoi Jésus va dire « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Alors ça a plusieurs sens. Mais moi, je garderai celui-là. Jésus trouve à chaque fois une autre voie. Quand le levain des pharisiens, c'était « Oui, non, bien, mal, je te retombe dessus, de toute façon, dans les deux cas. » Jésus trouve toujours une autre voie parce qu'il a une autre vision du monde. Et il fait appel à cette vision du monde, qui est la vision du royaume de Dieu. La vision de Dieu sur le sabbat, par exemple. Qu'est-ce qu'il répond? Oh, mais attendez, ne rêvez pas. Le sabbat, il est fait pour le repos de l'homme. Mais l'homme n'est pas fait pour faire le sabbat. Ah, et à chaque fois, il leur clouait le bec. Sur la repentance, sur le pardon, etc. Face à la complexité du monde qu'on connaît aujourd'hui, et puis en plus en ce moment, de la confusion politique, de la crise sanitaire, il en est de même. Résistons à la tentation en fonction de ce que justement André nous a enseigné. Il y a une troisième voie. Parce que la voie, ce serait de dire il y a les gens bien et les méchants. Il y a les justes et les profiteurs et les pourris. Il y a des politiciens complètement perdus, puis il y a des politiciens complètement véreux. Oh, vous croyez que c'est si simple que ça? Et je crois que, je m'avance peut-être en disant ça, mais est-ce que Dieu n'a pas une autre explication par rapport à ce qu'on vit en ce moment? Eh bien oui. Ternaire, toujours. On ne peut servir de maître. Dieu et maman. Et c'est maman. Même les meilleurs se font avoir par maman. Et ça, c'est pas un complot. C'est maman. Et maman, c'est pas le dieu de l'argent, c'est le dieu de la richesse, de l'accumulation des richesses. Je vous fais pas de dessin, vous écoutez les nouvelles. Et je pense que si Jésus était en chair et en os au milieu de nous aujourd'hui, il dirait arrêtez. Arrêtez avec les complots, les bons, les mauvais, les véreux, les pourris. Les... On ne peut pas servir de maître, Dieu et maman. Et on a ce seul choix-là. Voilà, donc c'était juste pour vous dire qu'il y avait des points intéressants à creuser et peut-être que justement ceux qui reverront ça dans des cercles plus restreints, vous pourrez profiter de cette application, de ces applications. Et je ne dis pas ça pour disculper, vous savez très bien quelle est mon opinion sur le sujet, mais c'est important de, comme dit la Bible, retenir ce qui est bon. Voilà, donc j'ai retenu ce qui est bon dans la complémentarité. Alors on va revenir à notre 1 Corinthiens 13. On termine toutes les qualités positives de 1 Corinthiens 13. Et vous savez, en relisant mon message hier soir, j'ai eu un moment de doute terrible et je me suis dit, Seigneur, ça ressemble à de la morale. Mais c'est affreux, je ne vais pas pouvoir faire ça demain matin, ce n'est pas possible. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, non, je ne suis pas là pour faire la morale, déjà à moi d'abord et puis aux autres, même à moi, bon. Et puis le Seigneur m'a montré autre chose. Vous savez ce verset qui dit, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et donc, en regardant 1 Corinthiens 13, par pitié, tournons vers lui les regards. Parce que sinon on va se déprimer, on va regarder tout ce qu'on n'arrive pas à faire et on va sortir en pleurant ou en étant complètement déprimé. Alors que si on regarde Jésus, comment lui il a fait, ça va être tellement plus facile de faire comme lui. Parce que si on nous assène comme ça, oui, l'amour, il pardonne tout, l'amour, il exuit tout, l'amour ceci, l'amour cela, et puis on est là, ah ben moi, j'en ai pas assez, c'est affreux, je suis pas capable de faire tout ça. Alors que vous avez remarqué comme c'est plus facile, alors pour les dames qui font de la couture ou du bricolage, de faire avec quelqu'un qui le fait presque à la perfection, et on regarde comment il fait, et on apprend. Hein, tous ceux qui font des travaux manuels, je suis sûre que Oscar, malgré ses études universitaires, il a regardé comment faisaient son frère, j'imagine, ou les maçons, et il peut faire pareil, même si ce n'est pas sa formation de base. Et quand on fait avec quelqu'un, c'est tellement plus facile. Eh ben, je crois que surtout remettez ça en perspective, parce que sinon je ne veux pas faire une leçon de morale, ça me ferait mal au ventre. Mais simplement regardons comment fait Jésus. Et là, on va avoir envie de faire pareil. Vous voyez, l'orientation n'est pas la même. Donc, je ne veux pas que ça passe pour une leçon de morale. Alors, on en était à... Alors, il pardonne tout, il excuse tout, l'amour excuse tout. Et littéralement, ça veut dire il couvre. Alors, bien sûr, il ne s'agit pas de couvrir les fautes et de cacher les fautes. L'Église catholique en a fait les frais ces derniers temps. On ne peut pas interpréter ce verset comme ça, parce que pour ce qui concerne le péché, la désobéissance à Dieu... Il y a un processus dans la Bible, qui est dans Matthieu, hein, qui est très clair. Donc il ne s'agit donc pas de ça. Il s'agit de toutes les petites choses qui nous agacent chez les autres. Et il y en a. Et ça, il demande que l'amour pour la personne va couvrir, va protéger en quelque sorte. L'amour, c'est voir, l'amour de Dieu, c'est voir ce qu'il y a de beau et de bien chez l'autre. Alors là, on a mis de côté la catégorie du péché, hein, évidemment, parce que on dira, bah oui, t'as tué ton voisin, mais t'es tellement gentil à côté de ça. Non, on n'en est pas là. Hein. C'est vraiment les petites choses. Et aimer, c'est voir ce qu'il y a de bien chez l'autre. Et alors, si vous regardez les lettres de Paul, alors Paul, pendant quand j'étais jeune, moi, je ne l'aimais pas trop, parce que je trouvais qu'il était sévère. Et puis dans mon église, on se servait toujours de Paul pour nous gronder. Paul a dit... Et alors du coup, je ne l'aimais pas trop. Et puis un jour, j'ai pris mon courage à deux mains. Je me souviens, j'étais en fac, j'avais un petit peu de temps la première année. Et j'ai commencé à lire les lettres de Paul. Allez ma fille, quand même, tu ne vas pas... Hein, on y va. Ah, oh, mais je l'ai trouvé fort sympathique, moi. Je l'ai trouvé gentil, je l'ai trouvé compréhensif. Je dis, mais c'est marrant, j'avais une mauvaise image de lui. Il faut lire la Bible, hein. On comprend mieux les choses. Et au début de chaque lettre, vous remarquerez qu'il commence par dire tout ce que les gens font bien. Après, il les corrige allègrement, hein, mais au départ, il relève tout ce qui est positif. Et regardez les Apocalypse, les fameuses lettres. Dieu commence par dire ce qui est juste et ce qui est bon. Et je crois que c'est aussi, c'est important de ne pas oublier. Et de ne pas se focaliser sur tout ce qui est casse-pied agaçant chez l'autre. D'ailleurs, j'ai remarqué que toujours relever ce qui est mauvais ou négatif chez les autres... sans proposer d'aide, bien sûr, c'est extrêmement destructeur pour les autres, mais c'est aussi destructeur pour soi-même. Les gens que je connais qui passent leur temps à relever ce qui ne va pas chez Pierre, Paul, Jacques, leurs voisins, leurs amis, leurs profs, leurs cousins, mais je trouve que mais c'est terrible, ça détruit la santé mentale, c'est de l'acidité, c'est de l'amertume qui détruit son environnement. Et ça, on le voit tout le temps, je dis parfois c'est du jus de citron, mais Ça attaque l'être intérieur. Et Evelyne n'est pas là, mais dans notre village, Evelyne et moi, on connaît des gens comme ça. Et misère, ce qu'ils sont malheureux. Ils font peine. Ils ne peuvent pas ouvrir la bouche sans dire un tel ceci, un tel cela, puis il fait ça de travers, et puis ça, et puis ça. Et puis tous les gens du village sont méchants, sont pas polis, sont... Alors que bon, on vit dans un village normal. Il y a des gentils, il y a des moins gentils. Il y en a qui sont gentils le matin, d'autres sont plus gentils le soir. Bon, c'est la vie, hein. Mais ces gens-là, je pense à une dame, si Evelyne était là, je pense qu'elle penserait pareil que moi, elle ne vit que de ça. Tout le village, c'est des gens impolis, c'est des monstres, ceci, cela. Mais qu'est-ce qu'elle est malheureuse, hein. Et je pense que ça détruit notre être intérieur. Donc, bien sûr, il y a des explications. Mais ça explique aussi pourquoi, pendant un temps aux États-Unis, beaucoup d'églises sont rentrées dans ce qu'on a appelé la pensée positive. Tout simplement parce que les gens se sont aperçus, et les médecins l'ont confirmé, que penser des choses positives sur son environnement, eh ben, on est plus heureux et on est en meilleure santé. Bah, c'est tout bête, mais c'est vrai. C'est vrai. Et je lisais un livre, alors je n'ai pas retrouvé ce bouquin, c'est dommage, ma sœur aussi, elle le recherche, où c'était l'exemple de deux sœurs jumelles qui vivaient l'une positivement et l'autre négativement. Alors, ils donnaient des exemples, ils sortaient l'hiver, c'était à New York, tout était blanc, c'était beau, c'était lumineux, je me suis bien habillée, j'ai marché dans la neige, personne n'avait encore marché, c'était merveilleux, ça craquait sous les pieds. Et puis l'autre sœur raconte la même journée. En me levant, c'était glacé, c'était froid, il y avait du vent, et puis cette neige glacée partout, qu'est-ce que c'est démoralisant. La même expérience, le même endroit, une vision positive et une vision négative. Ah, donc... Voilà, l'amour. Et l'amour de Dieu, c'est de relever les choses positives. Il s'occupe aussi de ce qui est négatif, mais il va d'abord relever. Paul l'a fait aussi. Le cinquième point, c'était « il croit tout ». Alors là, franchement, moi, quand dans les mariages, on nous lit 1 Corinthiens 13, je me dis « mais c'est quoi ça ?» Il croit tout, mais il faut croire au Père Noël aussi. Il faut être naïf, crédule ou simplet. Mais non, il faut le mettre dans le contexte de la Bible. C'est ça le problème. Hein, dans la Bible, il faut mettre les choses dans leur contexte. Dieu ne nous demande jamais d'être crédules et simplets. Jamais, jamais. Mais croire tout, c'est en fait attendre le meilleur de l'autre. Bien sûr, il ne s'agit pas de refuser de voir les mauvais effets de notre nature déchue. Ah oui, faut faire. Mais c'est croire que l'autre a en lui, ou qu'il peut recevoir, s'il le veut bien, la force de changer. Il peut recevoir, s'il le veut bien, la force de changer. C'est-à-dire ce que j'appelle, moi, ne pas mettre les gens dans un tiroir. Dieu ne nous met jamais dans un tiroir. Toi, t'es... Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Négligent. Pof. Toi, t'es désagréable. Toi, tu es ceci, cela. Et hop, on est dans le tiroir et on ne peut plus en sortir. Non. Vous savez bien que Jésus n'est pas comme ça. Jésus nous propose toujours, tu peux changer. Va et ne pêche plus. Il est là pour qu'on progresse, il est là pour qu'on change. Il nous regarde avec un regard bienveillant. Il croit tout dans ce sens. Il croit qu'on peut changer, qu'on peut s'en sortir. C'est pour cela, d'ailleurs, qu'on a tous suivi ensemble le torrent qui purifie. Ce désir, ensemble, de progresser en tant qu'Église. André et moi, on l'a suivi aussi. On en a même fait un deuxième parce que j'avais loupé les derniers cours. Mais ça fait du bien de changer ensemble, de progresser ensemble. C'est aussi pour ça qu'on a travaillé avec le ministère de la Maison d'Élie, parce qu'on croit tout. On croit que tout le monde, s'il le veut bien, peut changer. Parce que Dieu est tout puissant. Parce que ce qui nous peine, ce qui nous bloque, ce qui nous fait du mal depuis longtemps, il peut le changer si on lui donne l'autorisation. Parce que Dieu est gentleman. Il ne nous forcera pas. Mais... croire tout, c'est ça, croire que l'autre peut changer, que la situation n'est pas bloquée. C'est aussi cet amour-là qui nous aide dans l'éducation des enfants. C'est ça qui nous aide. Hein ? Est-ce qu'on va dire à un enfant, hélas, je l'ai entendu, et ça fait mal au cœur quand on entend des parents, vous savez, aux caisses des magasins, là, on assiste à des scènes assez intéressantes. Tu n'y arriveras jamais, tu seras toujours désagréable, tu seras toujours agaçant, tu seras toujours, fais pas. Et pourtant, le Seigneur n'est pas comme ça. Il dit aujourd'hui, tu as eu tort, aujourd'hui tu as mal fait, mais demain, avec mon aide, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, avec mon aide, tu vas y arriver, si tu veux. Est-ce que tu prends ma main ? J'aime trop ce verset, je le cite tout le temps, vous savez que je radote. Ce verset où Dieu dit, tous les jours je tends les mains vers ce peuple rebelle. Et garde donc toujours cette image. Allez, je vais t'aider, relève-toi. Tu vas y arriver. Ah oui, tu as été désagréable avec tes parents aujourd'hui, oui, c'est vrai, mais bon. Je suis là, je vais t'aider. Tu vas arriver à les supporter, les parents. Et inversement, tu vas réussir à les supporter, les enfants. Dieu est un Dieu d'encouragement et il nous appelle à faire de même. Et ce n'est pas bloquer les enfants. Ils seront toujours comme ça, etc. Je te tends la main, tu vas y arriver. D'accord, tu as raté, mais si tu veux, je t'aide à changer. C'est aussi ce qui nous aide dans la relation d'aide, c'est de croire tout. Et on voit des belles choses. On voit des belles choses. Hein. C'est cet amour-là que Jésus manifeste envers Pierre. Aïe, aïe, aïe. Moi, je ne sais pas, chaque fois que je pense à ça, ça me fait mal au ventre. Il vient de trahir Jésus, de dire « je ne le connais pas, non mais oh !» Et quelques, je ne sais pas, c'est quelques jours après, hein, Jésus le rencontre. Il dit, Pierre, m'aimes-tu ? Oh, on pourrait s'attendre à ce que Jésus lui dise, non mais dis donc Pierre, honnêtement, tu crois pas que tu pousses un peu ? On a passé 3 ans ensemble et tu oses dire à une servante, c'était pas un soldat, c'était une servante, tu oses lui dire que tu me connais pas 3 fois et pourtant je t'avais prévenu, hein ? Enfin, c'est ce qu'on aura envie de dire, nous, hein ? Et qu'est-ce que dit Jésus ? Pierre, m'aimes-tu ? Et c'est exactement ce qu'il nous dit à nous aujourd'hui. M'aimes-tu ? Ah oui, c'est vrai que la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, t'as fait ci, t'as fait ça. Oh ! M'aimes-tu ? Parce que c'est là la clé. Sinon, tout ce que je vous dis, c'est plus qu'une leçon de morale. La clé, c'est aimes-tu Jésus ? Est-ce que j'aime Jésus ? Je me l'applique à moi d'abord. Est-ce que j'aime suffisamment Jésus ? Pierre, m'aimes-tu ? Moi, je trouve que Jésus est formidable. Il espère tout. Là encore, ce n'est pas refuser de voir la réalité en face, mais c'est refuser de voir l'échec comme définitif. Ça rejoint un peu mes tiroirs. C'est la confiance dans la victoire finale de Dieu. Et je vous avais apporté depuis 2 dimanches, puis là, aujourd'hui, je l'ai oublié, un merveilleux livre d'un certain monsieur Mulan, qui est suisse. Et il a mis dans ce livre le récit de... Je pense qu'il y a 10 de couples qui ont eu des problèmes immenses, des problèmes insurmontables humainement, et qui ont réussi à les surmonter avec l'aide de Dieu. Ce sont des témoignages magnifiques. Je l'ai à la maison, je peux vous le prêter. C'est très, très encourageant de voir que dans les situations les plus désastreuses, Dieu peut changer les choses. Il espère tout. Et c'est l'illustration même qu'on peut tout espérer, même quand les choses vont très mal. Ce livre, je veux bien vous le prêter parce que c'est tellement encourageant. Des témoignages réalistes, ça n'allait pas. Mais ils ne vous disent pas, oh, avec la grâce de Dieu, tout allait bien. Non, ça n'allait pas, ça allait très mal. Mais on peut tout espérer avec la bonté du Seigneur, avec son aide. Donc c'est un livre, moi, qui m'a fait beaucoup de bien aussi. Notre rôle, c'est de continuer à espérer et à prier. Tu sais, John Wimber disait, tant que les gens sont vivants, continuez à prier pour eux. Quand ils sont morts, on arrête. Mais il n'y a que là qu'on arrête. Et c'est vrai. Et alors, je voulais vous parler du livre sans parole, parce que c'est une histoire où, justement, un jeune pasteur a tout espéré jusqu'au bout. Il ne faut pas se décourager. Il était logé chez une vieille dame. Alors, à l'époque, les jeunes assistants pasteurs, ils avaient une petite chambre meublée en ville, et ce n'était pas le Pérou, hein. Maintenant, je pense qu'on en prend un peu plus soin. Mais à l'époque, c'était un peu dur. Et il était chez une vieille dame. Il avait une petite chambre chez une vieille dame. Et à chaque fois, il y parlait de Jésus. Mais elle était hermétique. On aurait dit qu'elle ne pouvait rien comprendre. Mais il ne s'est jamais lassé. Les mois sont passés. Il continue à lui parler de Jésus, qui sauve, qui guérit, qui pardonne. Il avait l'impression de parler à un mur. Et puis, je ne sais pas, c'est 1 ou 2 ans après, cette vieille dame a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle n'allait pas bien du tout. Et quand il est arrivé chez lui, il a vu qu'elle n'était pas là. Les voisins ont dit, mais tu peux aller la voir, elle est dans tel hôpital. Et alors, il lui a, pendant des mois, il lui avait expliqué l'évangile avec le livre sans parole. Alors, je pense qu'il est là. Ils sont très grands, vous allez les voir. Je n'ai peut-être pas besoin de vous les montrer. Le livre sans parole, c'est simplement des pages de couleurs, vous allez voir. Bah, peut-être Christiane peut vous les montrer ou André va vous les montrer. Donc, on commence par le noir. Voilà. Voilà, bon. Ça va aller, oui, t'inquiète pas. Le noir. Alors, le noir, il expliquait à cette vieille dame, en espérant qu'elle comprenne, que le noir, c'est mon cœur chargé de fautes, de péchés et de tristesse aussi. Et le salaire du péché, c'est la mort, donc le petit verset est là. Et il lui dit, voilà, notre cœur à tous, il était comme ça. Et puis, voilà, ça c'est tous les péchés, je vous les passe, c'est pas réjouissant. Et puis, à la croix, le sang de Jésus a été versé, rouge pour le sang de Jésus. Versé à la croix, pour nous pardonner, pour laver nos péchés. Et il lui expliquait ça le plus simplement possible pour être sûr qu'elle arrive à comprendre. Ça, c'est fait pour des enfants, donc on leur montre l'enfant qui se lave. Et puis, grâce à ça, le cœur, il est devenu blanc. Normalement, il est blanc. Voilà. Désolée. Donc le cœur, il est devenu tout blanc parce que Jésus l'a lavé par son sang. Et puis après, on grandit. C'est le verre de la croissance. Il n'est pas là, le verre, oui, il est là. Le verre de la croissance. On grandit avec le Seigneur. On progresse comme les plantes. C'est pour ça que c'est vert et on progresse. Ça, c'est fait pour des enfants, mais je pense que ça peut nous parler à nous aussi. Voilà, on prie, on a une relation avec le Seigneur. Et puis après, c'est le doré, normalement, où on va entrer dans la gloire avec le Seigneur. Et il avait expliqué ça à cette vieille dame, mais 36 fois. Elle avait l'air d'écouter comme ça et c'est tout. Et là, il arrive à l'hôpital. Et elle était rayonnante, il ne l'avait jamais vue comme ça. Elle était très fermée, toute souriante. Elle lui a dit, mais vous savez, mon grand, noir, c'était mon cœur rempli de péché. Rouge, c'est le sang de Jésus qui a été versé à la croix pour moi. Blanc, c'est mon cœur après qu'il ait été lavé par Jésus. Vert, c'est ma relation avec le Seigneur qui me permet de grandir. Et doré, c'est ce que je vais vivre maintenant dans la gloire avec Jésus. Alors là, il a eu le choc. C'est une histoire vraie. Hein. Il a eu le choc de sa vie. Elle avait tout compris. Il avait espéré jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et elle est décédée, je crois, le soir même. Et je pense que, pour moi, c'est un exemple qui est resté là. Et ce livre sans parole me parle toujours à cause de ce témoignage. Des choses simples comme ça, ça rend service. Et un jour ou l'autre, Dieu parle au cœur. Le message du salut, il est simple. Vous voyez, on peut le faire pour un enfant. Il est très simple, mais il est puissant. Et cette vieille dame qui était complètement bloquée, elle a pu entrer dans la présence du Seigneur. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'il est tard, mais on n'avance pas beaucoup. J'espère que vous me pardonnez. C'est un petit peu lent là, l'avancement, mais on va pouvoir terminer la semaine prochaine et passer la semaine prochaine à accueillez-vous les uns les autres. On va rentrer dans les différents les uns les autres. Et le prochain, ce sera « Accueillez-vous les uns les autres ». Et on va parler justement de comment Jésus a accueilli. C'est pour vous mettre en appétit. Tournez nos yeux vers Jésus. Si vous voulez cette semaine relire, ce serait peut-être bien. L'histoire du jeune homme riche, la Samaritaine, la femme adultère et comment Jésus a accueilli les lépreux, les aveugles, les infirmes, etc. Alors, je vous donne les références. Le jeune homme riche, Marc 10. Juste le chapitre, vous trouverez bien dedans. La Samaritaine, Jean 4. La femme adultère, Jean 8. Et les lépreux, Matthieu 8. Si vous voulez les lire, et les en préparation de comment Jésus a accueilli les gens et comment il nous appelle à les accueillir nous aussi. Et sachant qu'il nous accueille, nous, avec le même amour, la même bienveillance. Et qu'on n'a pas besoin de faire des efforts surhumains pour être comme Jésus, faire comme lui, être gentil. Mais regardez comment il a fait et ça va vous donner, ça va nous donner envie de faire pareil. On apprend toujours mieux par l'exemple que si je vous dis il faut les enfants, il faut. Si je vous dis regardez Jésus et faites comme lui, c'est beaucoup plus facile. Seigneur, merci pour ton exemple. Merci pour ta grandeur. Merci de t'occuper de gens aussi petits que nous, aussi pécheurs. Et merci Seigneur d'avoir cette bienveillance. Merci pour ta bienveillance envers tous. Parce que tu crois toujours le meilleur pour nous, tu espères toujours le meilleur. Tu regardes à tout ce qu'on fait de bien aussi. Tu ne l'oublies pas. Tu n'oublies pas les efforts, tu n'oublies pas ce qu'on fait. Mais tu nous invites à marcher à côté de toi et à t'imiter. Aide-nous Seigneur à marcher à côté de toi et à ne pas vivre notre vie à part de toi. Et simplement se rapprocher de toi le dimanche. Aide-nous, Seigneur, fais-nous grâce pour qu'on marche tous les jours à côté de toi. Et ce sera tellement plus facile de t'imiter. Amen.